C'est le Cotin Tello, d'Astrich et ton micro, parlant d'informatique et d'autres trucs quantiques. Il cause de son boulot, c'est le pénible apéro.
Ouais, merci, j'apprécie.
Bonjour à toi, enfant du futur immédiat, toi qui nous écouteras dans quelques secondes, le temps que l'ampli à lampe préchauffe, à moins que ce soit le moment du boot du Raspi qui commence à... Alors, l'informatique est basée sur l'électronique et non, je vais pas commencer mon intro habituelle telle que je l'ai écrite, puisqu'en arrivant en voiture, en écrasant quelques cyclistes, en écoutant FMR, parce que FIP maintenant est beaucoup moins intéressant maintenant que les programmes ont repris puisqu'ils ont arrêté la grève, et ben figurez-vous que j'en ai entendu des, non pas si énormes que ça, de la part du Dasritch à devenir, c'est-à-dire 20 ans de moins que moi... quand il a parlé tout à l'heure d'Arduino et tout ça, puisque je ne leur ai pas dit qui était l'invité, ni le sujet de l'émission. Mais ça tombe très bien. Bref, l'informatique est basée sur l'électronique. Te rappeler ce truisme n'est pas fortuit. Lors des très riches premières heures des très gros ordinateurs, le bidouillage matériel ajoutait des fonctions, bien on réparait des problèmes, etc. Sur les ordinateurs, ou faire à souder, quoi. Et dans les années 70, l'informatique dite « familiale », avec des guillemets, fut vendue en kit, parfois à souder soi-même avant de toucher aux premières lignes de code. Oui, c'était franchement des vrais hobbyistes, tu vois. Hein. Mec... tatouer tout ce que tu veux. Et il était facile de trouver ces kits à construire jusqu'à la fin des années 80, avec les petits afficheurs à LED et tout, c'était super mignon. Et même après l'arrivée des ordinateurs complets, l'informatique familiale s'allumait avec un langage basique, c'est-à-dire un langage très simple à apprendre, et présentait à l'arrière une prise parallèle pour une coûteuse imprimante qui était très rarement achetée. Seulement, il n'était pas rare dans de nombreuses revues de trouver des schémas de montage à construire, à brancher sur le port parallèle, puis à contrôler via des programmes en basique. C'était très amusant. C'était dans les sciences et vie, dans les logiciels et tout le reste. Ailleurs, en Europe de l'Est, par exemple, ce genre de montage était obligé pour brancher l'imprimante que vous avez récupérée au Softcause sur le VIC-21 que vous avez importé en fraude depuis l'Ouest décadent. C'est vrai. Mais tout cela a disparu à la fin des années 80 avec l'hégémonie des PC. Restés dans les années 90, des kits d'apprentissage indigents. Une pile 9 volts, des résistances, un transistor, des LED et quelques capteurs. Pas trop de quoi se tenir au courant. Mais bon, j'exagère. Mais le lien entre l'électronique et l'informatique était devenu distendu, en fait, pour le public. Alors que dans l'industrie... on trouvait des kits de développement à des tarifs quoi, hein, le genre à 4 chiffres pour la puissance d'un Nokia 3310, c'était super. Heureusement, le mouvement Maker et l'industrie de la téléphonie mobile feront oublier cette régression. Les cartes Arduino en 2005, puis les Raspberry Pi en 2011, des ordinateurs peu chers, qui font la surface de deux cartes de crédit et s'alimentent par un port USB, ils sont plutôt faciles à programmer, et ils incitent à bidouiller directement la circuit interne. Ben oui, il n'y a pas de boîtier, donc on a tout dessus. Ben allons-y. À nouveau, les apprentis soudeurs peuvent refaire le lien entre l'électronique et l'informatique. Ce qui ravit aussi l'industrie d'avoir des systèmes de prototypage de qualité industrielle abordables et des ingénieurs déjà formés à ceci. Je reçois donc Frédéric Jourdan, cofondateur de Snootlab, un vendeur d'EdiKit, mais aussi une entreprise de conception de cartes d'extension, qu'on appelle des Shields, basée à Toulouse, et accessoirement instructeur infiniment patient, parce qu'il arrive à même à me faire souder sans trop de bavure. C'est dire. Fred, bonjour.
Salut.
D'abord, franchement, comment est arrivé, comment toi tu es venu à l'électronique? Quel a été ton premier contact? T'étais tout petit ou t'étais déjà ingénieur?
Non, j'étais déjà grand. Je suis pas ingénieur, je suis économiste, statisticien. Et mon vrai travail, en fait, c'était de concevoir des produits financiers ou faire des produits assurantiels. Donc tu vois.
D'accord. Donc quand tu fais une moyenne, en fait, sur une courbe, sur un étalage, c'est plus simple pour toi de mettre un condo à la sortie du tableau Excel.
Exactement.
D'accord.
Non, moi, j'ai toujours réalisé des projets, enfin, au lycée, puis ensuite en fac, des projets scientifiques et techniques. On faisait à l'époque des mini, des micros et des fusées expérimentales avec Marc, mon meilleur ami, et cofondateur de Snootlab. Et en fait, après une longue vie professionnelle, dans divers milieux, pas du tout en lien avec l'électronique, en 2010, au moment de la création du Theta Lab, dans laquelle on était embarqué, Marc et moi, on s'est dit, ben, en fait, on aimerait bien industrialiser cette approche-là et le rendre possible pour le plus grand nombre. Parce qu'au Theta Lab, il y a quand même beaucoup de furieux très voilà, qui ont du skill en électronique et en informatique. Et c'est pas le cas de tout le monde, et à commencer par moi. Donc voilà, on a dit, on va rendre ça possible pour le plus grand nombre.
comme je l'ai dit tout à l'heure, donc les Arduino venaient de sortir, on n'était pas encore sur les Raspberry Pi et des PC complets, mais ils commençaient à avoir des kits qui commençaient à être programmables via un ordinateur. Donc on commençait à redémocratiser justement ce qui allait devenir l'Internet des objets.
Ouais, complètement. À l'époque, on ne parlait pas encore de l'Internet des objets, ou alors uniquement dans des milieux académiques. Maintenant, c'est un peu, c'est pas, je dirais pas tarte à la crème, mais c'est un peu comme le sexe pour les teenagers. Hein. Beaucoup en parlent, très peu en font. Désolé.
On est une radio grand public.
Cool. Il a quand même dit désolé en regardant Mika avec un petit clin d'œil.
Moi, je veux dire, non mais bon. Il a du poil au menton hein, maintenant. Tu vois,
petit teenager. Là.
Il sait servir de son joystick, je te rassure.
Comment tu sais?
Ça dérape. Et ouais, en 2010, en fait, on était encore dans l'analogie quand le Raspberry n'existait pas, mais déjà avec l'Arduino, on peut faire énormément de trucs, enfin des robots, des instruments de musique, de la soudure toute basique, enfin vraiment beaucoup, beaucoup de trucs. Ensuite est arrivé le Raspberry, où en fait, c'est les Linuxiens sont rentrés plus...
L'Arduino, en fait, l'idée au départ, c'était de proposer au milieu artistique, en fait, des bricolages rapides à programmer sur lesquels ils puissent interfacer des choses.
Ouais, au départ, ça a été fondé, donc Arduino a été inventé par un groupe d'Italiens et qui ont voulu, enfin, qui étaient profs de design dans une école de design en Italie et donc aux États-Unis et qui ont vu leurs étudiants en design aux Beaux-Arts et qui avaient un petit peu de mal avec la programmation. Et donc, ils ont dit, bon, on va faire une plateforme qui va permettre de mettre facilement de l'interaction entre le monde réel, physique et l'informatique. Et donc ils ont designé une carte adaptée aux débutants en fait, hein, qui codent avec les pieds et parfois en palme. Et en fait ça marche quand même quoi. C'est ça qui est assez génial avec cette carte.
Donc vous êtes mis ensemble et puis donc vous avez commencé à fonder, je veux dire, Sneak Lab. Comment en fait quand vous êtes lancé et tout, il y en a qui vous ont dit non mais ça marchera jamais. La banquière était sceptique.
Ouais à fond.
D'accord.
Ouais, en fait,
ça n'a pas dû être facile, je suppose.
Non, alors en fait, on a voulu créer une société parce que ben, Marc et moi, on voulait vivre. Voilà, moi, je voulais vivre de cette activité-là. La société, c'est un moyen. On avait besoin très concrètement d'embaucher un ingénieur et donc il fallait le rémunérer pour embaucher quelqu'un. Donc, il faut une structure. Et en fait, on aurait pu partir sur une association. Les scopes n'étaient pas encore complètement à la mode. Donc, on est parti sur une SAS, hein, donc Société par Action Simplifiée, un truc pornographique dans le milieu du libre. Sauf que c'est juste un moyen, hein, c'est juste un outil.
Dans le milieu du libre en France, hein, parce que ailleurs, oui, c'est très incorporé justement dans le milieu du libre. Il faut le rappeler, c'est une radio de gauchistes ici. Ouais.
Et donc, tout simplement, on a mis 10 000 euros sur un compte bancaire. Moi, j'ai emprunté à titre personnel de l'argent pour payer les premiers salaires. Et puis, c'est parti, quoi. On s'est lancé comme ça, un peu freestyle. Donc, avec bien sûr tout le monde autour, à part les copains qui soutenaient et les gens qui connaissent un peu le milieu du hacking, qui nous disaient c'est génial ce que vous allez faire parce que vous allez industrialiser des objets open source. Mais après, autour, personne n'y croyait. Bon, voilà. C'est notre sixième exercice. La boîte est rentable. Alors, on est cinq.
Alors, qu'est-ce qui fait la différence par rapport à d'autres acteurs du secteur? Et attention, il faut que tu cites au moins deux noms parce que sinon, c'est la publicité clandestine.
Ah ouais. Alors, la différence, je vais citer. Eh oui. Ouais, non, je vais en citer deux. Alors, je vais citer Adafruit et SparkFun. Bon, qui sont des sociétés américaines, ont fait la même chose que eux, mais t'as tes deux références et c'est. Deux boîtes formidables qu'on est sur le même modèle. Hein. C'est eux qui nous ont inspirés et on les distribue également. Voilà, c'est plus de la pub là.
Là, ouais, tu peux y aller.
Ok, c'est bon.
Et qu'est-ce qui vous différencie justement?
Ce qui nous différencie.
Parce que tu dis, on est comme eux, mais.
Ouais, bon, on a une approche, un peu différente. Enfin, l'électronique, hein, c'est un peu comme la création d'objets par des artisans. Chacun y met sa patte, chacun y met sa touche un peu spécifique. Enfin, je sais pas, je vais donner quelque chose d'assez anecdotique, mais qui est d'habitude, les électroniciens, ils envisagent les pastilles dans lesquelles on fait passer les composants, ils les font rondes, et nous, on pense que carré, c'est mieux. Parce que c'est plus facile pour souder en fait. Alors c'est très con, sauf que ça simplifie bien la vie. Donc c'est l'une des différences. Voilà, avec nos confrères, nous on a d'autres différences qui sont qu'on est plus ça va, plus on s'intéresse à tout ce qui est objet communicant. Et on va chercher les technologies un peu qui sortent, qui émergent pour les rendre accessibles au plus grand nombre.
C'est par Snoot Lab, qui est un site d'e-commerce. pour acheter donc du matériel plutôt que le faire sur les sites chinois, les sites d'électronique qui restent.
Alors nous, on a une approche française, c'est-à-dire qu'on est une société avec des salariés qui gagnent leur vie grâce à cette activité-là. Mmh. Donc ce sont des gens qui sont rémunérés au standard des salaires français. Donc c'est simplement par comparaison, hein, un technicien supérieur en France a son coût, c'est entre 26 et 28 000 euros par an. En Chine, l'équivalent qui va utiliser les mêmes machines, c'est 6 000 euros en fait. Donc voilà, il n'y a pas de barrière à l'entrée en termes de taxes, de douanes, de que sais-je, sur les produits qui sont importés. Donc le premier élément différenciant Snootlab, c'est que on travaille en France, on conçoit en France et on fabrique en France. La deuxième approche, c'est qu'on fait de la doc en français, c'est qu'on fait du support en français et qu'on fait les produits bleus.
Mmh. Oui, c'est vrai. Et justement, parmi les produits que vous avez fait, lequel, pour toi, tu en es le plus satisfait ? Quelle est la création en fait, de Snootlab que tu dis, ouais, celui-là, petit pincement au cœur, il est génial.
Alors moi j'aime énormément un produit, c'est notre best-seller, hein, c'est le produit qui s'appelle Mémoire. Et donc c'est une carte d'extension pour stocker des données
Il m'en faut plein.
Sur carte SD. et tu peux le redater, donc tu peux te souvenir. En fait c'est un produit qui est un dérivé d'un autre produit qu'on a fait avant et qui était un système de monitoring énergétique open source hardware et connecté, donc un peu le kit Linky, donc compteur Linky open source à base d'Arduino.
Compteur intelligent, mais en général, ouais. Quand on met l'informatique dedans, c'est pas forcément plus intelligent.
Ouais, mais le nôtre aussi, il est très analogique, donc voilà, il est assez robuste en termes de fonctionnement. C'est un kit qu'on a développé en 2010.
Donc l'un des tout premiers.
L'un des tout premiers, c'est le tout premier kit qu'on a développé, et de ce kit est né Mémoire. De Mémoire, de ce produit Mémoire est né un autre produit qui s'appelle Tune, et donc il y a un player MP3 et qui a été le sujet de fin de diplôme d'une de nos apprentis dans BTS système électronique.
Je crois que je l'avais chambré, d'ailleurs, il y avait des bières.
Ouais. Oui, comme une fois par mois dans nos locaux. Et ce même produit, on l'a réutilisé dans une installation artistique qui s'appelle Stochastic, parce qu'il est super simple à utiliser, et on l'a utilisé pour donc faire les fameuses machines à bulles d'Anne-Laure Codina et qui représente les fluctuations d'indices boursiers à l'aide de bulles de savon.
Les enfants adorent éclater sans comprendre que c'est une analogie pour dire c'est ta famille qui va éclater sous le chômage de tes parents. D'ailleurs, ça sera représenté, si je me trompe, au THSF. Ils seront à nouveau présents, puisque c'était déjà présent l'an dernier.
Oui, tout à fait, mais Anne-Laure est en résidence à Mixer-Pierry, c'est pour Mémoire, le THSF. C'est jeudi, vendredi, samedi, dimanche, pas cette semaine, la semaine prochaine.
Donc, on va en reparler, justement. Il y a une initiative qui a été annoncée il y a 2 mois, qui est assez fabuleuse, la BBC, qui est la radio-télé publique anglaise, qui a une énorme charge sur l'éducation nationale, qui va faire construire et distribuer 1 million de nano-ordinateurs pour les collèges, du type Arduino. C'est pas une nouveauté, la BBC l'avait déjà fait dans les années 80, avait sorti des ordinateurs qui s'appelaient BBC Micro, qui ont une réputation fabuleuse. Ce genre de programme manque en France, le programme d'initiation et tout ça, mais serait-il mieux mené que le plan informatique pour tous des années 80 ?
À n'en pas douter, oui. À n'en pas douter, oui. Moi, je pense qu'il faut...
Est-ce que tu penses que c'est une initiative, par exemple, qu'on pourrait porter, pas forcément par l'éducation nationale, mais peut-être par les conseils régionaux ou juste par les organismes particuliers?
Oui, alors il faut quand même rappeler qu'ils le font déjà, mais de façon locale et pas à l'échelle du pays. Ils le font au travers des budgets qu'ils allouent aux collèges et lycées pour acheter des Arduino dans le cadre soit de TP qui sont menés dans le cadre des enseignements, soit dans le périscolaire aussi. Donc ça existe, mais c'est vrai que ce sont des initiatives locales, et ça dépend énormément des enseignements et des animateurs qui interviennent dans ces établissements-là. Mais ça n'a pas la résonance parce que c'est pas quelque chose qui est médiatisé parce que c'est encore assez
c'est à trop petite échelle.
Ouais, c'est petite échelle. Mmh. Je veux dire les collégiens et lycéens ils comprennent tout de suite ce qu'est un Arduino. Ça vaut 19,50€, donc ils peuvent s'en acheter un à titre personnel. Et ce qu'ils font dans l'établissement, ils peuvent aussi le faire à la maison. Mmh. Et ramener même, donc on voit cette boucle d'interaction, donc qui est la boucle vertueuse qu'on veut.
Ils s'approprient réellement la technologie.
Et
quoi.
En fait, on arrive à trouver des enseignants en fait qui s'inspirent des projets, des envies des étudiants pour les concrétiser par des manips, et ça sert de support d'introduction à des connaissances ou à des notions qui sont parfois assez compliquées, quoi. Donc ça existe, mais ça dépend vraiment des acteurs locaux et de la motivation des enseignants. Mmh.
La révolution Internet des objets s'accélère. Toulouse est plutôt à l'honneur quand même parce qu'il y a une spectaculaire levée de fonds de Sigfox. Ils ont levé 100 millions, ce qui est la plus grosse montée de fonds en Europe, justement dans ce secteur-là.
Ouais.
Ils sont pas loin, ils sont à Balma.
Ouais.
Est-ce que, un, vous vous connaissez, et deux, comment vous collaborez ?
Alors, on se connaît très bien et on collabore beaucoup et depuis maintenant plus de 2 ans. En fait, un certain nombre de makers de la région nous demander de rendre accessible la techno Sigfox qui était... Alors,
Sigfox en fait c'est de la communication bas débit,
très longue distance
effectivement en mesh, donc ça vous irez chercher sur la Wikipédia, et qui donc justement permet à des petits objets de communiquer, de relier les infos sur internet, quoi.
Avec un principe zéro config, c'est à dire le principe de fonctionnement des objets qui incorpore la techno Sigfox, c'est que ça peut être configurable par un perroquet ou un chat, c'est à dire qu'il n'y a pas de login password à taper. Il suffit de mettre en fonctionnement d'appuyer sur le bouton on sur l'objet, ou simplement qu'il y ait un scénario qui fasse qu'il s'allume tout seul et il va automatiquement transmettre de l'information. Voilà, contrairement au Wi-Fi, au Bluetooth, à toutes les autres technologies. Donc, nous, il y a 2 ans, donc on nous a demandé de la rendre accessible. C'était réservé uniquement aux grands groupes qui avaient des gros programmes de déploiement d'objets connectés, type, équiper toutes les barrières de services sur toutes les autoroutes de France, par exemple. Donc, c'est des marchés qui sont énormes. Et Sigfox, c'est une boîte qui fait du B2B. Hein, voilà.
Oui, c'est-à-dire ils discutent qu'avec des entreprises.
Voilà, qu'avec des grandes entreprises. Mmh. Donc, nous, parce que par affinité entre personnes, et puis puisqu'on est dans le même coin, on s'est mis d'accord, et nous SoundCloud, on est considéré comme un de leurs intégrateurs de technologie, et on a fabriqué des objets accessibles aux individus, à un individu ou à une start-up, pour prototyper des usages avec leur techno, et on gère en fait toute l'interface, on gère une flotte de modems comme un transporteur de containers ou que sais-je, quoi.
Ouais, j'ai vu aussi un projet de gestion d'arbres pour savoir en fait s'il manque d'eau et tout ça, justement basé là-dessus.
Oui, enfin on peut.
Donc il y a vraiment.
Il y a vraiment aucune limite.
C'est vraiment fabuleux, quoi.
Ouais.
Et du coup, puisqu'on parle d'Internet des objets, quels sont les risques avec la loi de renseignement qui a été votée hier ?
Alors, moi, je pense très franchement que le niveau de compétence des services de renseignement n'est pas encore assez affûté pour aller chercher sur ces réseaux-là. Hein. Mm-hmm. Ils vont faire de l'Internet, ils vont faire un peu de téléphone, des trucs qui sont assez faciles, et où il y a beaucoup de trafic. D'ailleurs, j'encourage vivement la communauté à développer des générateurs automatiques de trafic pour offusquer en fait et générer du bruit en fait, hein, et qui est puisqu'on peut pas lutter en droit.
Tu veux dire que l'astuce en fait serait de paralyser cette loi en leur faisant tellement plus de trafic à gérer que ça coûterait trop cher.
Génial. Mais c'est une stratégie, quoi. Enfin, ouais. Voilà, parce que ça a simplement pas de sens d'écouter. De tout écouter, voilà. Je pense que sur l'Internet des objets, il n'y a pas vraiment de risque, en tout cas sur les objets tels que sur les technologies Sigfox. D'abord parce que la signification de l'information qui est transmise n'est pas incluse dans le message. Donc en fait, l'objet sait ce qu'il envoie et le système Sigfox sait ce qu'il reçoit. Mais
il n'a pas la description de quoi correspondent les chiffres.
Mais pendant le transport, on ne sait pas du tout ce que ça veut dire. Voilà. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas trop de risque. Après, sur le côté le côté très invasif ou qui va permettre d'avoir de l'information sur les personnes, en fait, le risque, il est au niveau des serveurs, des ordinateurs, il n'est pas au niveau des objets connectés eux-mêmes, en fait.
Mmh. Oui, forcément. C'est plutôt ceux qui sont derrière. Bootlab sera présent donc ce week-end. Pour le Fab Lab Festival qui a déjà commencé, et donc vous avez un meublé là-dessus derrière la console.
Meublé, ça va.
Non, mais en plus justement, vous avez donné une très 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 bonne description. Stutlab, vous y êtes présent. Qu'est-ce que vous avez prévu exactement ?
Alors, on a la chance parce que ce week-end, on a deux copains qui débarquent des États-Unis, qui sont Mitch Altman et Jimmy P. Rogers, qui sont deux hackers full-time et qui font le tour de la planète en fait toute l'année et qui débarquent à Toulouse pour.
Ces mecs, leur niveau, tu vois, il est tellement fort qu'ils font du café avec une bombe atomique.
Non,
ils font l'inverse.
Non, ils font pas avec une bombe atomique. Ils te prennent une cuillère, ils te prennent un ampli et ils te font une cafetière familiale, mais pas avec une bombe atomique. Ils ont besoin de beaucoup moins d'énergie pour ça, quoi. Plus sérieusement, Mitch Altman, c'est l'un des cofondateurs du Noise Bridge, donc le hackerspace de San Francisco. C'est aussi un inventeur, celui qui a inventé TV Beagle. TV Beagle, c'est la télécommande qui sait faire qu'un seul truc. Elle sait éteindre les télévisions.
Et toutes les télés.
Et en fait,
c'est génial. Alors franchement, une TV Beagle, c'est super quand vous allez dans les bars.
Pendant des matchs de football, les finales de préférence.
Faut pas être en claquette parce qu'il faut être capable de partir.
Non, suffit d'être discret.
En fait, cette télécommande, elle a pour vocation en fait d'aider ceux qui sont complètement addicts à la télévision. Et donc, en tant qu'ami, on peut aider nos amis en éteignant leur télévision et en les libérant en fait de l'emprise de la télévision. Donc, c'est vraiment très utile.
Tu fais pas ça pendant que je regarde Silicon Valley. Sinon, ça va mal aller, Fred.
et voilà. Ouais. On a nos voisins autour des bureaux qui parfois comprennent pas pourquoi au milieu de FIFA, je sais pas combien, l'écran se coupe. Hein, et en fait, c'est assez drôle.
Donc, ces deux personnes qui sont vraiment des légendes vivantes de la communauté Maker sont présents.
Ouais,
alors, et pourquoi ?
Et alors, pour un atelier de soudure, donc samedi, toute la journée, donc au Fab Lab Festival, soudure de badge, soudure de TV Beagle, soudure de Drawdio, donc un stylo avec lequel on peut jouer de la musique, ou des LOL Shield, donc qui sont une invention de Jimmy. Et dimanche, ils feront également une conférence, donc de 15h30 à 16h30. Et sur les besoins de la communauté et comment on soude une communauté, puisque c'est...
Et pas à l'étain.
Et pas à l'étain, voilà. Comment on crée une communauté et comment on l'anime. Avec plus une vision de hacker plutôt que de Fab Lab. Mais je crois que c'est important, en fait, d'échanger là-dessus, quoi.
L'atelier du samedi, c'est accessible aussi aux enfants. C'est à partir de quel âge ?
On a déjà fait souder 5 ans, mais 5 ans c'est quand même vraiment très petit. Non, c'est à partir de 10 ans et jusqu'à je sais pas 100 ans.
Et pour pouvoir participer quand même, faut acheter le matériel. Ça part à partir de combien ?
Alors, il y a un certain nombre de badges qui seront donnés gratuitement aux personnes qui sont cool.
Fonzi, il est cool.
Non, mais nous on est.
Il tape sur un truc, ça va pas en marche.
Et puis après, les kits type TV Beagle, etc., pourront être achetés sur place. Ce sont des kits qui coûtent pas très cher, ça coûte moins de 20 euros. Pour les fumeurs, c'est pas cher.
Oui, forcément. C'est forcément. Merci Frédéric Jourdan. Avant que tu partes, d'ailleurs, est-ce que tu peux jeter un œil sur notre émetteur FM ? Il grésille un peu bizarrement en ce moment, et il faut souffler parce qu'à droite, là, ça sort plus. Merci.
Je t'en prie.
Pour rappeler combien il est utile de revenir en matériel, le premier ordinateur non quitte à devenir populaire, l'Apple II, avait son schéma électrique vendu avec, à destination des bricoleurs, et l'idée de Steve Wozniak qui avait insisté pour qu'il y ait le schéma quand même de l'ordinateur, c'est que tout simplement on puisse cloner l'ordinateur. Et tous les autres ont imité sans comprendre en fait quelle était l'origine de base. Et grâce à cette idée, ben, tout simplement des allumés du fer à souder ont construit la première souris pour le grand public, comme cela, en comprenant comment ça marchait. Il y a eu des cartes son et il y a même eu des cartes pour mettre d'autres ordinateurs dans l'Apple à l'intérieur. C'était complètement fou et en fait vraiment utile. Bref, enfant du futur immédiat, le Raspberry Pi et ses compères t'offrent l'occasion de voir justement comment interagit un logiciel avec l'environnement physique et donc de réellement hacker le monde. Ces ordinateurs complets sont de vraies merveilles et leurs prix ridicules tenteront les derniers scrupules à bricoler avec et de voir ce qui se passe quand on découpe un circuit électronique et voir s'il marche encore. À toi de prendre un Raspi, de le brancher dans la machine à laver, à la place de l'autoradio, ou de faire ta télé une borne d'arcade. Et c'est ça qui est génial. L'informatique redevient personnelle et créative. Et qui sait, avec une petite idée, tu vas peut-être créer un objet réellement utile, et peut-être que tu vas faire des sous avec. Voilà.
Merci.
Dans le monde physique, donc, on a une émission en direct du Fab Lab Festival vendredi de 11h à 14h.
C'est ça.
Voilà. Une autre émission mercredi prochain à l'anniversaire de Combustible, on sera en direct du Grand Builder. Là aussi, je crois qu'on va encore parler de bricolage et de tout le reste. Et on a une émission dans 10 jours en direct du 6e Toulouse Hackerspace Factory, samedi de 14h à 16h.
Donc, à Mixart Miris.
Trois émissions en public.
Et Indélébile aussi. En suivant, on va à Indélébile. À 17h, on fait un 17-19. Je crois.
Oula, non, je crois que c'est à partir de 18h.
À partir de 18h.
Ouais, non, parce que tu vas mal piller le studio, y aller.
Ça va être le marathon quand même.
Ça va être infaisable.
Ça va quand même être le marathon.
Donc c'est en public d'ailleurs, n'hésitez pas à venir. Et du coup, au Fab Lab ou au THSF, venez apprendre à souder. Ça fait pas trop mal quand on s'en fout.
Et,